mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'Emploi. Mode d'Emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, c'est avec l'équipe AC1920, historiquement l'émission qu'on mène depuis maintenant presque 18 ans, hein, on va dire, qui œuvre ce soir. Je suis avec Christophe, bonjour Christophe.
Bonsoir à tous et à toutes.
Ludo qui va bientôt nous rejoindre, Gilles au micro également pour vous servir, et bien sûr Claude à la technique. Donc une émission bien sûr haut en couleur comme d'habitude pour parler des chômeurs qui se font de plus en plus contrôler évidemment. Nous allons parler également du rapport Brexel, merci. Rapport Brexel qui donc est axé sur le code du travail et le CDI principalement. Voilà. Nous parlerons également du revenu universel qui apparemment est sur la table en Allemagne pour permettre à tous les gens, toutes les personnes de vivre avec un revenu minimum. Enfants compris, bien sûr, hein, voilà, toutes les personnes qui travaillent ou qui ne travaillent pas. Et bien d'autres sujets encore ce soir. Il y a de quoi faire en ce moment, d'autant que les régionales approchent. Et donc, tous les hommes politiques sont sur la sellette. Ça va de soi. Donc, on va commencer cette émission par... Merci, je ne prends pas le TGV, mais nous sommes quand même arrivés sur l'antenne, voilà. Nous allons commencer sur, effectivement, Christophe, sur le contrôle des chômeurs, puisque maintenant, apparemment, depuis peu, le contrôle des chômeurs va être renforcé.
Eh oui, contrôle accru des chômeurs, prenez garde, c'est parti. Le top départ des contrôles renforcés des chômeurs à Pôle emploi se déploie progressivement à partir du 28 septembre. Il s'agit en fait d'une équipe dédiée de 200 personnes chargée de vérifier si les demandeurs d'emploi recherchent effectivement un nouveau job. Alors, un petit point sur ces mesures controversées qui, chers auditeurs, vous concernent, je n'en doute pas tous et toutes, ou au moins dans votre entourage. En quoi consiste ce nouveau système? Eh bien, auparavant, les conseillers d'emploi étaient eux-mêmes chargés du contrôle de la réalité des recherches d'emploi des chômeurs. Désormais, ces tâches sont déléguées à une équipe dédiée, donc composée de 200 personnes pour l'ensemble de la France. Et ce sera un job à plein temps. Il ne s'agit pas de personnes recrutées spécialement pour cette tâche, mais de redéploiement d'agents de Pôle emploi. Ils seront regroupés en petites équipes par région, sachant que leur nombre pourra varier sensiblement, suivant le nombre de demandeurs d'emploi dans la zone. Alors, vous allez me poser une question. Pourquoi renforcer les contrôles?
Alors, pourquoi renforcer les contrôles?
Eh bien, en fait, cette nouvelle stratégie a été testée entre 2013 et 2014 en trois régions, PACA, Poitou-Charentes et Franche-Comté. Il s'agit d'un moyen de pallier à la faible efficacité du contrôle effectué par les conseillers d'emploi. En fait, ces conseillers en Pôle emploi sont confrontés à une espèce d'injonction paradoxale, c'est-à-dire qu'ils ont une échelle et puis on leur demande de peindre le plafond tout en retirant l'échelle, puisque selon eux, ils ont une difficulté pour concilier des missions d'accompagnement, hein, donc de trouver du travail aux gens inscrits, ainsi que de contrôle, ce qui est un petit peu contradictoire. Alors, il y a un rapport qui a établi le bilan de cette expérience. Celui-ci est édifiant. Pendant l'expérimentation, donc dans les trois régions précitées, entre 8 et 35 des chômeurs contrôlés, ont été, devinez quoi, radiés. Entre 8 et 35%, c'est quand même pas rien. Et les chômeurs rayés des listes de Pôle emploi pour un suffisant de recherche ont représenté seulement 2,7% de l'ensemble des radiations parmi ces régions testées. Il n'est que de 0,1% pour les autres régions. Donc en fait, les gens qui trichent réellement pour une absence concrète de recherche d'emploi sur une longue durée sont très peu nombreux. Qui est en fait ciblé parmi ces démarches? Alors, c'est là où la polémique commence à enfler, puisque d'après Pôle emploi, cela s'effectue de façon aléatoire. Mais il a apparemment des instructions indiquent que les contrôleurs peuvent concentrer leurs recherches sur les profils dits plus à risque, c'est-à-dire les moins actifs ou encore ceux qui sont au chômage depuis longtemps. Rien n'empêche de plus, si tu veux, les conseillers de signaler eux-mêmes aux contrôleurs les personnes soupçonnées ou de pas en faire assez pour trouver un job. Cette technique va être ensuite étendue un petit peu partout en France. On estime que vers la mi-novembre, 80% des équipes seront en place. Alors, la question qui se pose lorsqu'on est chômeur et précaire, c'est qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois absolument faire pour ne pas me faire épingler, Gilles? À ton avis?
Ben, c'est faire semblant de chercher du travail. Hein.
Alors, la priori, tu vois, c'est de l'ironie, mais on peut vraiment se poser la question. C'est-à-dire que la
priori. C'est-à-dire envoyer des CV à plein d'entreprises.
Ah, non. C'est beaucoup, c'est là où le bât blesse, c'est là où ça fait polémique objectivement. C'est-à-dire que d'abord, il faut que tu mettes à jour ton CV. Notamment sur ton espace pour ton projet personnalisé d'accès à l'emploi, ton espace dédié, ça c'est pas précisé, tes caractéristiques de l'emploi recherché, tes qualifications, la rémunération espérée, etc. Ensuite, il faut que tu prouves que tu recherches effectivement activement un emploi. Et ben c'est là que les choses se corsent parce que à ton avis, ben y a pas de critères objectifs. Voilà. Une chose est sûre, il faut au moins que vous postuliez aux offres envoyées directement par votre conseiller. Hein, sachant que le bassin des offres, le panel des offres de Pôle emploi ne représente en fait que 40% du marché du travail, puisqu'il y a le marché caché, lié aux candidatures projet, aux candidatures spontanées, et puis il y a les sites concurrents, hein, notamment sur Internet, enfin voilà. Donc, ensuite, le jugement peut varier selon le nombre d'offres d'emploi dans le secteur concerné, le profil du chômeur, son éloignement du marché du travail. Enfin, il y a un flou théorique. Mais Pôle emploi se défend en disant que ça lui permet de s'adapter à la situation de chaque demandeur. Mais on peut aussi se poser la question si ça augmente pas les risques de dérive. Alors, quels sont les risques si on ne respecte pas la règle? Pôle emploi explique vouloir privilégier avant tout la redynamisation de la recherche d'emploi plutôt que la sanction à tout prix. Ben, c'est pas un peu étonnant quand on sait que près d'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé.
Oui, effectivement.
Premièrement, en cas de soupçon, le demandeur aura un certain temps pour apporter des justificatifs. Si, par exemple, il a postulé à des offres sur d'autres sites que Pôle emploi, on en parlait indirectement il y a une minute. De plus, bon, s'il y a une insuffisance qui est signalée, le demandeur d'emploi conservera une chance d'échapper à une sanction s'il se remet à chercher en fait activement un job. C'est une promesse de Pôle emploi. En l'absence de réaction à l'avertissement adressé, la radiation serait par contre inévitable et d'être 15 jours pour insuffisance de recherche d'emploi, voire de 1 à 6 mois en cas d'insuffisance répétée. On parle d'indemnisation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire des gens qui sont pas indemnisés par Pôle emploi et minima sociaux, par exemple? Bon, manifestement, ils sont pas vraiment concernés par cette équipe de contrôle. En fait, pendant cette période, les allocations chômage ne sont plus évidemment versées. Mais il s'agit d'un report des droits et donc d'une suppression. Vous ne perdrez pas les droits à cette indemnité, vous la recevrez seulement plus tard. Donc la question qui se pose, c'est quels sont les recours face à ce type de radiation? Ben, il est évidemment possible de la contester en envoyant un courrier au responsable de Pôle emploi, vous l'ayant signifié dans un délai de 2 mois suivant cette décision. Vous avez un site spécialisé qui s'appelle Recours avec un S. -radiation.fr, je répète, recours avec un S-radiation.fr, qui est mis à disposition des modèles de maître pouvant vous inspirer. Si la radiation est confirmée, vous pouvez ensuite tenter de joindre le médiateur de Pôle emploi, voire tenter un recours au tribunal administratif, mais alors là, il faudra vous armer de patience.
Cela suppose quand même que tous les chômeurs ont accès à Internet et ont un ordinateur chez eux.
Ah oui, mais voilà. Là, il y a une problématique d'espèce de fracture numérique, qui n'est pas une problématique qui date d'hier en ce qui concerne les difficultés dans la recherche d'emploi, entre autres.
Très bien. Merci, Christophe. Il faut savoir quand même que le contrôle va être renforcé novembre. Hein, c'est bien ça. Hein, voilà. Donc, c'est à peu près 200 personnes qui sont
200 personnes
chargées uniquement de faire des contrôles. Donc, on flicalise un petit peu le système de Pôle emploi. Donc c'est plus Pôle emploi, c'est le ministère de l'Intérieur pour le coup. Hein. Qu'est-ce que t'en penses?
Moi j'aime bien la flicalisation.
Oui, la flicalisation, c'est un mot que je viens d'inventer dans la seconde. Là, c'est un peu barbare, je reconnais. D'accord. Alors dis-moi les annonces, parce que tu parlais tout à l'heure de Pôle emploi. Est-ce que je peux rester avec toi 2 minutes? Les annonces piégées de Pôle emploi. Il y a des annonces à Pôle emploi, mais
alors,
toutes ne sont
donc,
pas.
On est dans une logique de renforcement des contrôles avec une équipe dédiée. Hein. Parce que, bon, on peut s'interroger par rapport à ça, sur le fait, si tu veux, que c'est un, en fait un aveu d'échec d'une institution et d'une politique étatique par rapport à la problématique du chômage qui dure depuis des décennies. Enfin, on peut quand même se poser la question.
Et c'est surtout en... depuis 2008.
Depuis 2008, oui.
Voilà. Mais outre ça, il y a une seconde problématique. Alors là, on change de sujet, mais ça concerne indirectement la notion de recherche d'emploi. Et là, c'est grave parce qu'il y a des personnes qui ont été condamnées, hein, à des peines de prison, enfin, à du pénal, hein, alors qu'ils sont totalement innocentes. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, il s'agit d'un article du Canard Enchaîné qui, sous le titre « Les annonces piégées de Pôle emploi ». Alors, on vous explique la situation et là, on fait un avertissement global de ne jamais faire ce type de méthode. En fait, il y a des petits malins qui, sur le site d'Internet de Pôle emploi, ont infesté de fausses offres de jobs qui sont faites par des escrocs. Alors, elles ont l'apparence de vraies annonces. Hein. On a qui sont déposées dans le système informatique, sous le nom d'entreprises connues, hein, comme par exemple le groupe Accor. Les renseignements donnés sont exacts. T'as le numéro de Siret, de la prétendue société recruteuse, le nom du responsable à contacter, qui est le réel responsable dans la vraie vie de la société. Hein. Il n'y a pas de problème, sauf que l'adresse électronique est légèrement différente de la vraie, conduit tout droit vers les escrocs. Et alors là, l'arnaque est en place. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, dès qu'un candidat croit contacter l'entreprise par courriel, il est invité sous peine de rejet à fournir en retour une copie de sa carte d'identité, de ses relevés EDF, de sa carte vitale, de son attestation de domicile, de ses coordonnées bancaires et une photo en couleur, soit tout le nécessaire pour une usurpation d'identité. Un délit qui flambe donc ces derniers temps et entraîne des sérieux dégâts pour les victimes qui sont victimes de quoi? De création de faux comptes en banque et escroqueries diverses qui aboutissent parfois à des condamnations et à des inscriptions au casier judiciaire des malheureux dont on a pris le nom. Quant aux entreprises, elles sont elles-mêmes assaillies par des prétendants à des postes bidons qui viennent demander de nouvelles de leur candidature. Donc la dernière cible en date, c'est le groupe Accor Hôtel qui emploie plusieurs milliers de salariés dans toutes les entreprises d'hôtellerie, tourisme et de services. La bonne blague a commencé à lasser. Fin juillet, déjà, la direction Accor avait demandé au patron de Pôle emploi, Jean Basser, de prendre au plus vite des mesures. Courrier resté sans réponse, c'est quand même assez aberrant. Début septembre, rebelote, une trentaine de jeunes chômeurs enthousiastes se sont présentés ou ont téléphoné au siège d'Accor en munis de l'annonce des faussaires et de leur réponse. Du coup, Accor vient de déposer une plainte pour utilisation frauduleuse de sa marque, ils ont bien raison, et escroquerie. Pôle emploi n'a pas l'air pressé de se remuer, ce qui est quand même assez délirant. Il y a tout juste un an, le Canard avait déjà révélé l'existence de ces annonces piégées. Pôle emploi avait alors juré d'y remédier sans tarder, avec le succès que l'on voit. Son système informatique est toujours aussi vulnérable et les escrocs se régalent. Certes, des notes internes, alors il y a une circulaire, hein, la DOL de décembre 2014, dépôt d'offres en ligne, sont analysées automatiquement, mais c'est une analyse logicielle, et en absence d'alerte, elles sont évidemment validées. Sauf que c'est des précautions qui sont bien loin de suffire. C'est-à-dire qu'en vérité, Pôle emploi estime qu'il y a désormais suffisamment d'offres bidons pour qu'on échappe à tout contrôle, hein, d'après un cadre qui sous gouvernement d'Anonymat, regrette ce constat. On a envie de dire qu'ils embauchent des informaticiens, ça créera de l'activité économique.
Merci Christophe. On s'écoute une petite chanson, on reprend la parole après, merci.
Nos capitaux, le capital.
Sans tambour ni trompette, nous revenons dans cette émission Mode d'emploi sur fréquence par pluriel 106.3 FM avec la superbe équipe de journalistes amateurs militantes et bénévoles de bien sûr l'émission des chômeurs à précaire. Ludo, Christophe, Gilles au micro et bien sûr Claude à la technique.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bon, un petit jeu de mots presque pas voulu finalement au début d'émission. C'est le rapport Bretzel.
C'est un jeu de mots inconscient. En fait.
C'est un jeu de mots inconscient, absolument.
T'as pris Bretzel, t'appelleras pour George Bush en fait.
Exactement.
Pour Bretzel de travers.
Donc, il touche principalement les négociations collectives de branches qui passeraient un petit peu au-dessus du code du travail. C'est un peu ça, Ludo, le principe.
Bah, semble-t-il, à lire la synthèse du rapport. Donc, ouais, je me suis, fallait juste les quatre pages de la synthèse du rapport et donc. On n'est pas plus éclairé en fait quand on a fini, en dehors du fait qu'on a vaguement l'impression qu'en fait on voudrait importer le dialogue social en Allemagne en France. C'est ça l'idée. Et donc il y a toute une série de dispositions, mais en fait c'est juste un rapport, sachant qu'en fait le rapport lui-même va servir donc effectivement à établir la loi qui va sortir dans quelques mois en fait, et où là on aura des choses plus précises. Donc les préconisations du rapport, grosso modo, d'après ce qu'on dit la presse, parce que ça n'a pas l'air d'avoir des mesures très concrètes pour le moment, c'est effectivement de faire passer des accords de branche, des accords dérogatoires de branche par rapport au code du travail dans un premier temps. Donc typiquement l'accord qui peut poser problème entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va revoir à partir du seuil légal d'heures à partir du moment où on déclenche tes heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'éventuellement, un salarié il pourra travailler plus en étant payé, mais normalement. Actuellement, dans l'état de la loi, vous travaillez plus que les 151 heures par mois. Chaque heure supplémentaire, vous êtes payé en tarif d'heures supplémentaires. Et via les accords de branche, on pourra déclencher un quota d'heures qui ne sera plus des heures supplémentaires. Donc, en fait, c'est une façon de revenir sur les 35 heures sans le dire, mais dans certains secteurs. Et juste à côté, il y a écrit, tant qu'à faire, privilégier les accords de sauvegarde de l'emploi par rapport au contrat de travail. Je sais pas ce que ça veut dire pour le moment, hein, mais vous voyez, ça nous promet des
lendemains
qui chantent.
Oui.
Alors, mais en fait, on va suivre l'affaire très vite, puisque dans quelques mois, on aura les propositions. Alors, il faut rappeler qu'en fait, on a prêté à Emmanuel Valls le fait d'être favorable au contrat unique.
Oui.
Qui remplacerait en fait le CDI et
sur
qui permettrait
9 heures, payer 37, c'est ça ou
je sais pas là on sait rien de ce qu'il y a dans ce il y a des trucs à droite, enfin des gens qui font des propositions, mais on sait pas. Sachant que enfin je crois que même Robert Badinter qui a écrit un bouquin avec Antoine Lioncamp pour parler du code du travail, trouve cette mesure de contrat unique très nettement en défaveur des salariés, puisqu'on, comme on le dit ici tout le temps à chaque émission, on n'est pas tout à fait dans un rapport égalitaire avec le patron.
Hein, bon. Évidemment.
Et donc, si on donne l'occasion du patron de pouvoir se débarrasser de n'importe quel salarié au bout de tant d'années d'ancienneté, plus facilement, et à notre avis, enfin, il risque pas de se gêner. Mais donc, il est pas du tout sûr que Manuel Valls soit sur cette position-là, et je crois même qu'il prendrait un risque un peu politique majeur s'il le faisait. Donc, ça risque pas d'arriver, à mon avis. Mais on sait pas, on sait jamais. Et donc, par contre, effectivement, il y a la préconisation de recodifier le code du travail à plus longue échéance. Alors, c'est là qu'on comprend pas, c'est qu'en fait, Monsieur Combrexel est déjà à l'origine d'une première recodification en 2008, qui soi-disant devait simplifier le code du travail. Or, la recodification en privilégiant en matière thématique le code du travail par rapport à la succession des lois, en fait, semble-t-il, nuit à la cohérence législative du texte.
Ouais,
non, la cohérence législative, c'est quand même du texte de droit que tu dois lire et puis interpréter. Sauf que si le chapitre qui est là te renvoie au chapitre qui est là-bas sur le plan législatif. Et déjà, c'était on disait déjà que de toute façon il y avait un besoin, c'était juste un toilettage. Et donc on remet le couvert six sept ans plus tard. Sauf que comme le font remarquer des économistes un peu plus à gauche, quoi, que Terra Nova. Par exemple, on touche à la réglementation du travail quand on n'a pas trouvé autre chose pour lutter contre l'emploi, finalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'après les promesses de Monsieur Hollande de se battre contre la finance. Il y avait ça, et puis d'inverser la courbe du chômage aussi, hein, je crois bien, avant 2013, 2014, je sais plus. Bref, donc mais maintenant, ça va être fin 2015 de stabiliser. Voilà, donc, je veux dire, il y a un échec patent des politiques d'austérité en Europe et en France. Et donc, solution de son chapeau, on sort la réforme du droit du travail dans l'espoir hypothétique de fluidifier le marché du travail et de créer des emplois dont on ne sait pas d'où ils vont sortir. Donc voilà. Donc mais par contre, il y a quand même un truc qui en dit long hein, sur ces histoires, c'est que vous savez, vous souvenez de l'ANI, l'accord national interprofessionnel, qui donc favorisait aussi les accords de branche. En réalité, finalement, les accords de branche, ben il y en a pas pléthore,
ben, ouais,
parce que finalement, c'est vrai que pour les patrons, c'est lourd à mettre en œuvre. Pour les salariés, ben c'est pas voilà, ils veulent plus de protection, plus de garanties.
Il faut être 50 salariés dans l'entreprise en plus, j'imagine.
En plus, et puis. Et donc finalement, visiblement, hein, on n'a pas l'air de se bousculer pour aller négocier des choses dans les entreprises, parce que finalement, c'est pas. Il faut-il qu'il y ait quelque chose à négocier aussi, c'est ça. À part justement l'augmentation de la durée du temps de travail, par exemple. Voilà. Et donc, ces accords-là, pour le moment, ça fait pas de miracle sur le terme d'emploi. Alors, il est vrai que outre Rhin, et ben entre 2005, bah les négociations collectives ont permis de bloquer les salaires. C'est ça aussi le modèle allemand.
Merci Ludo. Je ne sais plus parce qu'il y a également un petit souci au niveau des. Alors là, c'est un autre sujet, mais qui rentre quand même dans le cadre de notre émission. Un sujet sur le RSA, donc dont les départements aimeraient se détacher un petit peu du RSA. Qui veut prendre la parole sur le sujet?
Les départements effectivement menacent de ne plus verser le RSA, donc c'est une très mauvaise nouvelle pour les chômeurs, donc et notamment hein, sont très très concernés par des problèmes de pourquoi d'ailleurs ils ne veulent plus verser le RSA, c'est tout simplement du fait du transfert des compétences qui remontent à la loi de décentralisation de Raffarin et qui a les conséquences que l'on sait parce que c'était un transfert à budget constant en quelque sorte, il s'agissait pas pour l'État de mettre plus en fait d'argent pour le RSA, mais pas que en fait hein, il n'y a pas que l'allocation du RSA. Or effectivement en 2015 après 5 ou 6 ans de crise dans certains départements, donc notamment dans le département du Nord, de la Seine-Saint-Denis, en fait il y a 13 départements concernés, les dépenses sociales explosent. Merci. Et donc quand on parle de dépenses sociales, il faut compter bien sûr le RSA, mais aussi l'APA, l'allocation personnalisée.
L'autonomie, oui.
L'autonomie, donc ça qui compte, qui est les gens qui sont à la retraite et qui sont handicapés et qui ont besoin d'être de payer des aides, hein, et les aides à la dépendance en fait, et ça coûte extrêmement cher, et aussi la prestation de compensation du handicap. Voilà. Tout ça, c'est devenu des compétences départementales. L'État verse chaque année au département 6,4 milliards d'euros juste au titre du RSA. Mmh. Ce qui est pas mal, mais pas de chance, il reste à charge 4 milliards cette année, après 3, voilà. Donc, ce qui représente une somme considérable pour les départements. Et ça atteint en fait 8 milliards si on compte effectivement la PCH, la prestation de compensation du handicap et l'allocation personnelle d'autonomie qui ont progressé de 10% pour la PCH depuis 2012 et de 20% pour l'APA, pour l'allocation personnalisée d'autonomie. Bon, et ça c'est des augmentations pour l'APA, c'est des augmentations qui sont prévisibles. En quelque sorte. Autant le RSA, ça pourrait dépendre de l'emploi, autant l'APA, c'est le vieillissement de la population fait qu'il y a plus de dépendance. Voilà. Donc du coup, le reste à charge non compensé par l'État s'élève à 8,1 milliards, ce qui est une progression de 13% depuis 2012. D'où effectivement un sentiment d'étranglement et donc un besoin en fait de trouver un besoin pour les collectivités locales de trouver un financement du RSA par la solidarité nationale. Donc, et pour tout dire, les départements ne sont même plus contre une recentralisation du RSA et du financement du RSA. Et on comprend tout d'un coup que les départements se mettent à faire la chasse aux chômeurs. De préférence qui sont inscrits au RSA et qui chercheraient pas de travail.
Bien sûr.
Donc je tiens à préciser quand même que là celui qui lance la charge c'est un certain Dominique Bustreau, si ça dit quelque chose à quelqu'un, c'était un ancien ministre de Philippe Raffarin, donc qui a accepté la loi sur la décentralisation,
oui,
avec les conséquences voilà que l'on sait aujourd'hui, et qui donne la charge évidemment parce qu'il a un gouvernement de gauche en face, mais qu'avant c'était Arnaud Montebourg qui avait donné la charge contre un gouvernement de droite, bien entendu. Voilà. Mais cela dit, le RSA, l'APA et toutes ces choses sont aussi en partie responsables de l'endettement des collectivités locales, qui a conduit à la faillite de Dexia, n'est-ce pas? Et puis un endettement qui évidemment, un endettement, j'allais dire frauduleux, ou je trouve pas le terme, puisque en étant indexé sur le franc suisse, d'un coup qui est resté stable lui, et ben les dettes elles ont continué à augmenter, bien sûr, et c'était bien entendu une idée géniale.
Alors, je tiens à rappeler juste pour les auditeurs, mais sans doute que vous êtes tous au courant, que l'APA, donc l'aide personnalisée à l'autonomie, c'est quand même pour les personnes âgées qui sont handicapées. Et on peut faire un appel, donc si jamais ça peut vous intéresser au niveau de du mode d'emploi, on peut faire une demande d'APA d'urgence, donc qui dure 2 mois, et c'est 700 euros par mois pour des aides à domicile de gens qui ne sont pas proches de soi, c'est-à-dire des professionnels, le ménage, faire les courses, etc., pour ensuite faire une demande, un dossier réel d'APA. Et là, c'est pareil, 600 à 700 euros par mois, pour payer, bien sûr, ces mêmes personnes qui vont aider les petits vieux à s'en sortir. Il faut savoir également que dans le domaine tu parlais tout à l'heure, dans le domaine des personnes âgées qui sont un petit peu handicapées, les EHPAD, par exemple, les hôpitaux de santé aménagés pour les petits vieux coûtent à peu près 4000 euros par mois. Et c'est à la charge des familles, sauf si on n'a pas les moyens. Si on n'a pas les moyens, c'est l'aide sociale qui prend en charge le paiement, ce qui revient à 48 000 euros par an pour l'aide sociale. Et bien sûr, ils feront tout pour récupérer l'argent auprès des familles, patrimoine, etc. Ils vont aller tout chercher pour se rembourser de cette somme. Donc voilà, les choses sont dans l'état, mais faut savoir que les EHPAD sont très 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 chers, et qu'il y a des familles, y a de nombreuses familles qui sont maintenant, à cause de ça, à cause de leurs parents, qui sont malheureusement malade, mais qu'il faut quand même aider financièrement dans une panade. Ils ont beaucoup de mal à s'en sortir. On va écouter, j'ai du mal là tout d'un coup. On va écouter une petite chanson et ensuite on reprend la parole. Merci.
Tu peux être un ambassadeur, un prince florentin. Tu peux crouler sous les honneurs, couché dans le satin. Que tu sers quelqu'un.
Bonsoir à tous. Oui, vous êtes bien sur Fréquence Pas Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, d'agir ensemble contre le chômage. Voilà, donc c'est chômeurs précaires avec Ludo, Christophe et Gilles au micro et Claude à la technique. Donc c'était Il faudra que tu serves quelqu'un de Cabrel qui chante Bob Dylan. On adore déjà Bob Dylan, bon Cabrel moins, mais enfin bon, certains peut-être l'aiment beaucoup.
Mais parfaitement, bon, j'adore Cabrel.
Cabrel c'est sympa aussi, ouais, c'est vrai. Donc on reprend cette émission pour bien sûr parler du RSA. Tu voulais intervenir, Christophe, excuse-moi, je t'ai coupé la parole tout à l'heure.
Au sujet sur la problématique des transferts de compétences de l'État aux collectivités territoriales. Alors au départ, faut savoir que dans le cadre des lois de décentralisation Raffarin 2, l'objectif c'était, et effectivement il y a eu un tour de passe-passe budgétaire parce que les dotations aux collectivités territoriales sont transmises, faites par l'État. Donc il y a un budget qui est lié au ministère, si je ne m'abuse, des Affaires publiques, concernant les collectivités qui, en fonction du nombre d'habitants, il y a tout un ensemble de critères, leur densité, etc., reçoivent une dotation et voire des subventions de l'État pour leur fonctionnement et tout. Donc au départ, le transfert de la compétence dans le domaine de l'action sociale auprès des conseillers généraux, qui sont désormais des conseillers départementaux, a été sur la base de « mais nous serons à euros et à, ou à francs constants ». Mais évidemment, entre-temps, qu'a fait l'État? Parce que c'était le but de la manip, et ça a été fait aussi bien par les partis dits conservateurs de droite que des partis dits progressistes de gauche, c'est qu'il y a eu une baisse de dotation de l'État, qui a été progressive et complète. Alors, à titre d'information, quand je parle de baisse de dotation de l'État, est-ce que tu sais ce que ça représente en termes de budget pour la ville de Paris, par exemple, pour cette année?
Pour le RSA?
Non, non. Quand je te parle d'une baisse des sous de l'État donnés aux collectivités. Aux
C'est l'État qui transfère.
20%?
Non, un chiffre.
Un chiffre? Million. En millions? Je sais pas, absolument pas.
130 millions d'euros.
Oh là!
Et sur un budget de combien?
Ouais. Sur un budget de 7 milliards, mais 130 millions d'euros, c'est D'accord. pas rien. De 9 milliards, pardon. Mais c'est pas rien.
Ah oui.
C'est pas rien. C'est, pour l'action sociale, ça peut être un trou béant. Hein. Donc, effectivement, comme le rappelait Ludovic dans le dossier, il faut savoir que du fait de la pyramide des âges, du baby boom, on savait que de l'allongement de l'espérance de vie, on savait mathématiquement que l'allocation pour l'autonomie, hein, et puis l'allocation liée à la perte d'autonomie liée au handicap, allait être une demande croissante, hein, entre 2000 et 2015, et qu'il y allait avoir une augmentation conséquente, hein, de ces dépenses budgétaires. C'est d'ailleurs un des arguments qui a conditionné historiquement le relèvement des cotisations salariale, c'est-à-dire que nous qui payons, dans le cadre de l'assurance maladie. Pas l'oublier, ça. Hein. Nous, on a perdu du pouvoir d'achat pour compenser.
Mais on n'a pas perdu beaucoup, quand même. Hein.
Mais...
Et puis, il y a un effort de solidarité, le vaut bien.
Voilà. Cet effort de solidarité, il a été accompagné de sacrifices. Hein. C'est-à-dire une journée par an, de solidarité spécifique.
Moi, j'aimerais bien connaître le bilan parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises
qui est appliqué. Alors maintenant, effectivement, il y a un problème de fond, c'est que les conseils départementaux au départ étaient pour, hein, puisqu'on leur donnait une somme équivalente. Mais évidemment, du fait de la baisse budgétaire des dotations d'État, les conseils départementaux se sont retrouvés en déficit.
Non, et puis il faut dire aussi quand même que, enfin, je crois bien avoir compris que, enfin, les effectifs aussi pour gérer, mais pas seulement, ont quand même pas mal augmenté. Et
oui,
parce que c'est les premiers visés.
Parce qu'il y a une augmentation. Alors
par les baisses d'effectifs.
Hein, alors là, il y a un débat de fond qui est une problématique qui concerne indirectement la ville de Paris et le Grand Paris. C'est que, évidemment, les conseils départementaux, notamment les plus endettés, comme par exemple la Seine-Saint-Denis, ne seraient pas contre à ce que ce transfert de compétences lié à l'action sociale redevienne, que les fonctionnaires qui sont liés à ça, hein, redeviennent des fonctionnaires dans le giron de l'État, avec possibilité de mobilité, etc., en fonction des besoins, pour mutualiser et tout. Maintenant, la question qui se pose, c'est en termes de statut, de rémunération, point d'indice, etc. Et là, pour l'instant, c'est le flou, parce que la bataille des négociations entre collectivités territoriales et l'État n'a pas commencé.
Ouais. Ouais,
enfin, sachant qu'on va être sur le moins 10 ans. Faut pas rêver. L'État fait des économies. Donc, il y a un problème de fond. On va être dans une atteinte de la fonction publique par rapport à ça.
Oui, mais là, on parle des fonctionnaires, de la fonction publique. Enfin, je veux dire, le RSA, ça concerne quand même des gens qui ont même pas de salaire. Tu vois ce que je veux dire?
Tout à fait.
Là, ça repose juste sous votre
attention. Même si ça fait partie effectivement, des réformes,
Le RSA SOC, c'est combien pour une personne seule? 435?
452,21 €.
Sans l'APL.
Ah non, la peine est une autre prestation sociale compensatoire.
Non, je sais bien, mais
c'est avec
ça. D'accord.
Il faut savoir une chose qui est importante, c'est que il ne faut pas oublier un fait que nous avons tous dénoncé dans cette émission, à savoir que le pacte de responsabilité a coûté près de 80 milliards d'euros à l'État, au PIB de l'État. Elle sert à rentrer d'argent. Donc, quand on dit qu'on peut pas financer la baisse de dotation aux collectivités territoriales qui sont elles-mêmes endettées, c'est un discours libéral construit pour le désengagement de l'État afin que nous on paye, alors que ça profite au patronat. Faut pas l'oublier, ça.
Attends, c'était juste prévisible. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que cette baisse de dotation était juste prévisible. Dès qu'on a mis en la loi en œuvre, les lois de décentralisation, je me souviens, à cette émission, on l'a dit. Hein.
Tout à fait.
Bah oui, donc quelques années après, tu te retrouves avec un sérieux problème sur les bras à gérer, quoi, bien sûr.
D'où la question. Cet aspect déficitaire ne va-t-il pas engendrer une baisse des prestations? Et parallèlement à ça, une compensation des prestations, comment à votre avis, par l'arrivée des capitaux privés et des assurances privées?
Donc, alors, moi, je vois bien
un modèle libéral.
Moi, je vois bien le RSA, le RSiste, se prendre une assurance.
Ouais. Chez Total.
Chez Total.
Chez Total.
Ou la personne âgée, je veux dire, qui fait une demande d'appât parce que justement, elle a pas de quoi payer et que ça lui coûte cher.
Et qui va prendre une mutuelle,
qui va la prendre du temps où elle travaille,
etc. Machin. Ouais, non, mais on est devant un serpent qui se mord la queue et un problème de fond dont on va pas cesser de parler du fait que, c'est nous qui payons. Et que ça concerne la rentrée de l'aspect de la solidarité nationale qui est sur chacune de nos fiches de paye. Faut pas l'oublier.
Alors, vas-y, Ludo.
Oui, j'avais juste une réaction parce que ça fait penser à une chose, c'est qu'il y a quelques jours, peut-être une semaine, tout cassé, ou un peu plus, tout d'un coup, quand on allumait la radio et on a entendu des cris de joie extraordinaires. Pour la première fois, le nombre de pauvres en France avait baissé. Et c'était stabilisé.
C'est vrai?
Allez. Absolument. Voilà, c'était la présentation des chiffres par les journalistes, des chiffres en fait publiés par l'INSEE, entre autres, résultat de l'enquête SRCV, et puis voilà, ressources et conditions de vie, voilà. Nanana. Et donc, vraiment, on a eu on a eu un truc bien musclé. On dirait que c'était historique depuis le début de la crise. Or, en fait, en regardant bien l'étude, on s'aperçoit que, en réalité, le taux de pauvreté est stable, c'est-à-dire à 14%. Mmh. En fait, il avait été recalculé l'année précédente. Il était à 14,3. On était passé de 13,9 à 14,3.
Et j'ai lu un truc, alors peut-être tu vas confirmer, mais j'ai lu qu'il y avait 70 000 pauvres en France ou j'ai lu ça, Marc. Je pourrais pas être dérouté.
Ah, c'est pas 70 000, c'est plutôt 700 000. Est-ce
c'est 100 milliards. J'ai dû me confondre avec un zéro, alors peut-être.
Oui,
c'est ça. Plutôt 7 millions de personnes.
Oui, 7 millions tout compris.
7 millions tout compris, oui, c'est ça, avec les chômeurs.
Merci, Christophe. Non, c'est 14% de la population.
Oui, d'accord. Oui, c'est énorme.
Je veux dire, juste en dessous du seuil. Bon, et sachant qu'en fait, sachant que tu as qu'est-ce que tu disais, oui, que là c'est juste les 14% et qu'en réalité le chiffre qui a été indiqué, c'est 10, qui est indiqué par l'enquête, en fait c'est 10% des gens qui touchent le moins de revenus possible, tu
d'accord.
Vois
ah oui, voilà. Ah oui, effectivement, c'est énorme, ouais.
Voilà, ouais, et donc donc en fait voilà, quand tu pousses des cris de victoire parce que t'as une baisse de 0,2%, mais c'est franchement
c'est ridicule, ouais.
C'est, voilà, mais c'était juste parce que franchement des fois quand on écoute la radio justement,
alors pour aller dans votre sens, moi j'ai lu un truc il y a pas longtemps là, c'est sur les allocations logement qui sont rabotées de 185 millions d'euros. Donc bientôt, donc en 2016, dès janvier là, les aides personnalisées au logement, l'APL, donc des locataires, seront bel et bien rabotées. L'enveloppe qui leur est dédiée sera diminuée de 185 millions, je viens de le dire, et de 274 millions d'euros en 2017, selon le projet du budget pour 2016 présenté ce mercredi en Conseil des ministres, donc hier. Donc on veut dire, ça veut dire que le patrimoine des locataires, les patrimoines donc des gens qui habitent, qui sont propriétaires d'un petit appartement par exemple, on peut être RSAste ou chômeur et avoir hérité de son père et de sa mère d'un petit logement, genre un studio, mais on a quand même beaucoup de mal à payer les charges, etc. Et ben même là, on peut être raboté quand même sur son APL, c'est absolument hallucinant. Voilà. Donc, c'est un truc qui fait donc le RSA, ça va être pareil. Hein, ils vont également prendre sur le RSA par rapport au patrimoine. Donc, il faudrait peut-être qu'on cause l'affaire parce que là, c'est un petit document que j'ai en face des yeux, mais il n'y a pas de source.
Effectivement, ils sont en train mais c'était déjà le cas pour le versement du RSI en fait,
ah oui, d'accord.
Pas du RSA, c'est-à-dire que dans le contrôle du train de vie des chômeurs, à un moment donné, quand son train de vie apparaissait, et qu'on allait regarder ses comptes en banque et que son patrimoine, on pouvait déjà apparemment saisir une partie du RMI. Et donc effectivement, là c'est les allocations familiales et il s'agit effectivement de conditionner par rapport au patrimoine. Alors je sais pas si c'est bien, pas bien.
Faut voir,
si vous voulez, un étudiant, a priori il a pas de patrimoine, c'est sûr. Par contre, on peut avoir besoin d'un patrimoine pour construire sa retraite si on est dans des conditions de vie qui sont tellement galères en quelque sorte qu'on est obligé de demander une aide au logement, et donc son patrimoine c'est ce qui peut rester à la fin, ça peut être important. Alors, évidemment dans le cas si vous voulez, jusqu'à maintenant quand on était touché une allocation logement, on pouvait la toucher même quand on était propriétaire. Donc, mais si on pouvait la toucher quand on était propriétaire, alors est-ce que ça veut dire que on va ne plus la toucher, c'est ça, et en fonction de la valeur de sa maison éventuellement. Ouais, bien sûr, bon, voilà.
Bah écoute, Ludo, puisque tu as pris la parole, tu vas la garder si tu veux bien, puisqu'on va parler donc maintenant d'un truc qui nous est très cher à MNCP, la PES et puis la C Chômeur. Donc tous les mouvements sociaux qui ont continué à lutter depuis de 1995 pour un revenu garanti universel de base, hein, donc je me souviens plus le chiffre, je crois que c'était l'équivalent SMIC à l'époque, ou voilà. Donc le revenu universel revient sur la table en Allemagne. Ludo, est-ce que tu as quelques informations là-dessus?
Alors oui et non. Enfin, j'ai des infos, mais c'est très modeste. Hein, tout de même, c'est que effectivement à Berlin, ville en avance. Donc on a fondé en 2014 une plateforme qui s'appelle My Grundeinkommen, mon revenu universel. Excusez-moi pour l'accent, hein. Qui défendait le versement des revenus à tous les citoyens sans condition de ressources et sans obligation de travailler. Vachement sympa. Et comme c'est une plateforme internet, eh ben ils ont décidé de proposer ce revenu de base à quelques volontaires grâce au crowdfunding. En fait, c'est-à-dire que tu demandes sur internet de faire un don. Les Allemands sont très généreux en ce moment.
Oui, c'est vrai.
Donc de faire un don pour aller effectivement faire profiter un don recueilli sur internet pour aller faire profiter des personnes, des ayants droit en fait de leur des dons recueillis. Donc en l'occurrence, le problème c'est que là ça a permis de toucher en fait de toucher à peu près 16 personnes, hein, permis de financer 16 personnes qui ont été tirées au sort. Donc c'est très modeste. Voilà, dont une retraitée qui devait vraiment avoir des problèmes de retraite. Et un garçon de 7 ans et un salarié qui a abandonné son job pour suivre des études et devenir éducateur. Voilà, chaque fois que la somme de 12 000 euros est atteinte, un tirage au sort est organisé parmi les candidats enregistrés sur le site. Et donc, il y a juste un problème, c'est la pérennité de ce système. Mais c'est vrai que
L'expérience
est intéressante, ouais, bien sûr. Évidemment, nous, on aimerait un système de plus grande ampleur, mais.
Bien sûr.
Le loto pour tout le monde.
Le loto pour tout le monde. Alors, nous, comme vous le savez bien, nous avons en France un certain nombre de gens qui viennent de pays divers et variés, principalement de Syrie, puisqu'il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent. Et donc, Christophe, dis-moi un petit peu ce qu'il en est là, justement, de ces réfugiés en France aujourd'hui.
Eh bien, un article du Canard de cette semaine fait un constat édifiant. Bénévole, vos papiers. Alors, qu'en est-il? Depuis plusieurs semaines, toute personne accompagnant un étranger à un guichet de la préfecture de police de Paris, pour l'aider à se dépatouiller dans ses démarches administratives, est contrainte de remplir un curieux formulaire intitulé « Devinez quoi ?» Fiche accompagnant, renseignements demandés, nom, prénom, date de naissance et aussi qualité. Autrement dit, la nature des relations entretenues avec le dit étranger, voisin de palier, avocat, membre d'un organisme de bienfaisance, ami. Nul ne sait ce que vont faire les services de police de Bernard Cazeneuve, qu'est-ce qu'ils vont faire de toutes ces informations glanées. S'agit-il d'un fichage du cœur de gaucho? Hein, on peut se demander. Cœur à gauche.
Des humanistes. Voilà
des humanistes. On peut vraiment se poser la question. Ainsi, plusieurs centres administratifs des 4e, 14e et 17e arrondissements de Paris ont fait ce genre d'expertise. Un bénévole de l'association La CIMAD qui cherchait lui à percer le mystère a alors interrogé un guichetier. Résultat, l'impertinent a été contraint de présenter sa carte d'identité pour en laisser copie, ce qui est parfaitement illégal. Il apparaît justifié que l'administration sache qui elle reçoit dans ses locaux, répond la préfecture, raison de sécurité, donc. Mais au guichet des cartes grises, c'est bizarre, on ne demande rien. C'est intéressant, ça. Un migrant va-t-il avoir plus de mal à faire aboutir ses démarches parce que son nom est associé à une personne ou à une association jugée trouble faite par la police? S'étrangle la CIMAD, craignant la constitution donc d'un fichier clandestin des bénévoles. L'association a saisi le 18 septembre la Commission nationale informatique et liberté, et elle a bien raison, qui a ouvert une enquête. En l'absence de déclaration, la collecte et la conservation d'informations nominatives sont des délits, et les accompagnants devraient être informés de l'usage qui sera fait de cette fiche, de sa durée de conservation, du droit de rectification. La préfecture s'en fiche. Alors, c'est bizarre, mais moi, ça me fait penser un petit peu à 1940, ça. Qu'est-ce que t'en penses?
peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, oui, ça craint un petit peu, ouais, c'est clair.
Un petit commentaire.
Maman, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil.
Bonjour à tous et à toutes pour ceux qui viennent nous rejoindre sur cette antenne. C'est l'émission Mode d'emploi sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, émission des chômeurs et précaires. L'émission va bientôt se terminer, donc on termine par un petit peu les annonces. Donc d'abord les chiffres du chômage quand même, c'est important. Au total, fin août 2015, le nombre de chômeurs s'élève, toutes catégories confondues, à 6 116 300. Voilà, donc 6 116 300 chômeurs en France aujourd'hui. Voilà. Donc il y a dans la catégorie A une activité donc ceux qui sont sans activité aucune, sans recherche d'emploi ou sans activité, hein, une hausse de 20 000 personnes supplémentaires inscrites en juillet. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a augmenté de 156 600. Donc c'est quand même un chiffre important, voilà. Alors ceux qui ont plus de 50 ans, donc qui souffrent le plus de la hausse du chômage en août, le nombre progresse de 1,4%, soit 11 800 inscrits supplémentaires de gens de plus de 50 ans. Ces gens de 50 ans ou plus pâtissent le plus de la hausse du chômage en août, 6 000 demandeurs de plus qu'en juillet 2015. À l'inverse, les femmes de moins de 25 ans enregistrent la plus forte baisse. Moins 500. Donc là, pour le coup, là, on a des chiffres qui correspondent absolument à rien, puisque on avait 150 000 personnes d'un côté, 500 de l'autre. Donc vraiment, c'est une baisse qui est franchement ridicule. Mais bon, il faut quand même la noter. Voilà. Donc pour finir sur les chiffres, c'est peut-être facile de dire les chiffres comme ça, parce que là, c'est un document que je suis en train de lire. Les ouvriers employés, jeunes, personnes sans diplôme, parents isolés, habitants des zones urbaines sensibles et immigrés, sont en forte progression également. Donc effectivement, il faut mieux quand même être chômeur avec une formation que chômeur sans formation en France. Ça paraissait quand même un peu évident. Voilà. Donc Ludo, tu voulais quand même parler un petit peu de quelque chose que vous
avez
cher.
C'est effectivement, c'est le forum dans les secondes qui me restent. C'est un forum d'AC, de chômeurs précaires intermittents, donc revenu et des droits pour exister. Alors donc c'est le 24 et le 25 octobre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Donc en fait c'est à la fois un forum qui est un petit peu commémoratif par rapport à la création d'AC et à la fameuse marche des chômeurs. Et bon, c'est pour faire un bilan. Donc c'est samedi 24 octobre à la salle Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan dans le Paris 2e. Donc ça commence à 14h, hein, à 13h30 exactement. Et donc là on aura effectivement une table ronde pour un nouveau statut du salarié ou du producteur. Voilà. Ou une deuxième table ronde à 18h sur l'indemnisation du chômage, des minima sociaux, le fonctionnement du Pôle emploi, etc. Voilà. Et le dimanche 25 octobre, ça sera des ateliers thématiques, mais ça sera à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Donc c'est le 9-11 rue Genin, métro Porte de Paris, ligne 13. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site d'AC et bien sûr sur le site de Mode d'emploi avec le texte, l'appel, voilà.
Très bien, bah allez-y nombreux parce que c'est très important pour nous et pour vous certainement aussi. Cette émission se termine malheureusement. Je vous remercie tous et toutes de l'avoir écouté. Merci messieurs d'avoir fait avec moi. Je vous fais un gros bisou aux filles, une grosse poignée de mon garçon. Surtout ne lâchez rien et restez vigilants. Merci, au revoir.
Bonsoir à tous et à toutes.
Bonsoir.